Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. C'est un des paradoxes de la transition écologique et numérique. Pour faire marcher les éoliennes, le solaire, les batteries électriques et même nos téléphones portables, il nous faut de nouvelles sources d'énergie. Ce sont les terres rares, une petite vingtaine de métaux stratégiques et la demande va exploser. On devrait en consommer 50 fois plus d'ici 30 ans. Mais leur extraction n'est pas très respectueuse de l'environnement et la Chine fournit plus de 90% des besoins en Europe. L'Union européenne cherche donc, là aussi, à renforcer son autonomie, mais ce ne sera pas facile. À Pékin, notre correspondant Stéphane Lagarde.
La Chine n'a pas de pétrole, mais elle a les terres rares, disait Deng Xiaoping il y a plus de 30 ans. Trois décennies plus tard, la petite entreprise, devenue grosse industrie, ne connaît pas la crise. Les exportations chinoises de métaux rares ont même augmenté pendant la pandémie de Covid. Pour répondre aux commandes d'appareils connectés destinés à briser l'isolement des confinés, mais aussi et surtout pour faire face à l'envolée de la demande de minéraux au nom aussi poétique que le néodyme, le praséodyme ou le dysprosium, composant essentiel des aimants de certains moteurs électriques. Afin de maintenir son pouvoir de fixation des prix sur les marchés mondiaux, le gouvernement chinois tente de regrouper l'extraction et la transformation des terres rares dans deux grands centres de production, au nord et au sud de la Chine. Faut-il que l'Europe s'en inquiète ? Ce qui fait peur, évidemment, c'est la dépendance et la possibilité de couper le robinet des exportations en cas de conflit avec Pékin, comme le Japon en a fait l'expérience en 2010. 10 ans plus tard, discours de Xi Jinping en avril 2020, la Chine doit accroître la dépendance des chaînes d'approvisionnement mondiales à son égard, a répété le président chinois afin de renforcer ses capacités de rétorsion.
Les terres rares, nous disent les géologues, ne sont pas si rares dans la croûte terrestre. En revanche, leur extraction est très complexe. L'Europe aura-t-elle des ressources ? C'est certain. La Commission européenne a déjà listé toutes les régions, comme la vallée du Rhin, qui pourrait abriter des gisements. Au Portugal, par exemple, on trouve du lithium, un métal stratégique, comme on dit. Mais le projet d'ouverture d'une mine a soulevé la colère des habitants et des agriculteurs, qui y voient une menace sur l'environnement. Reportage dans un de ces petits villages du nord du Portugal, signé Marilyn Darcy.
À Covas do Barroso, petit village de granit dans un écrin de verdure, Aida Fernandez et son mari Nelson élèvent 29 vaches pour les veaux vendus en circuit court, une vie traditionnelle qu'ils ont choisie. Le projet de mine de lithium des Britanniques Savannah, qui devrait s'installer à l'orée du village, est venu ruiner leurs espoirs. Aida Fernandez.
Selon le projet de concession, ça jouxtera les maisons et ça nous fait peur. On se sent seul dans ce combat. L'État, censé être de notre côté, est en fait du côté de l'entreprise.
Une mine à ciel ouvert et une usine de traitement du minerai sont au programme et des mesures de protection de l'environnement que les opposants jugent ridicules. Aida Fernandez.
Ils parlent de faire une barrière arborée, mais ça veut dire quoi dans une région couverte de forêts ? C'est absurde. Et pour diminuer l'impact visuel, il est question de faire une sorte de terril. Mais ça n'a pas de sens. On est entouré de collines, parfois escarpées. Alors comment faire ? C'est impensable, c'est incompatible avec notre manière de vivre, notre intégration à la nature. Non, ça n'a pas de sens.
Une grande partie des 2000 hectares des communaux, ces terrains agricoles, gérés collectivement depuis la nuit des temps, est menacée, tout comme les ressources en eau potable de toute la région. À Morgade, un village de la municipalité de Montalegre, un autre projet de mine de lithium, celui de la société portugaise Luso Recursos, fait grincer des dents. Armando Pinto, qui dirige l'association Montalegre pour la vie.
Dans un rayon de 5 km autour du projet de la mine, il y a 125 exploitations agricoles, soit environ 250 emplois, au moins. Si la mine voit le jour, elle va tout détruire. Les emplois qu'ils prétendent créer avec cette mine ne vont pas compenser les pertes. Ici, c'est une région classée patrimoine mondial de l'agriculture.
L'UNESCO a attribué ce label à la région pour ses pratiques agricoles uniques et respectueuses de la préservation préservation de la nature. Dans la région de Villapoca de Aguillar, un peu plus au sud, on est ouvert aux projets miniers, mais avec des garanties sérieuses. Raoul Costa, qui dirige l'association des communaux de Pensalvos, près de la ville.
Le paysage peut être aussi joli avec l'industrie de lithium si toutes les règles sont respectées. Je suis positive, mais il faut s'attendre à des surprises, mais surtout que les choses puissent bien se passer. Si on a déjà des doutes, il vaut mieux ne pas avancer.
Dans la région, les géologues de l'université de Porto ont identifié des veines de spodumène, la pierre qui renferme le minerai de lithium. La concentration la plus forte dans le Portugal est de 1,9%, ce qui est considéré faible et peu rentable. Beaucoup de bruit pour rien s'insurge. Armando Pinto de Montalegre pour la vie.
Nous, on se sent comme un pays du tiers-monde, comme l'Afrique de l'Europe, si on peut dire. Car il existe du lithium ailleurs en Europe, en Allemagne, en Angleterre et en France, et on ne l'exploite pas. Pourquoi, alors que nous avons un faible pourcentage de lithium, insiste-t-il pour faire des mines ici, au Portugal?
Pour les opposants aux mines, la raison est simple, une population rurale, peu dense, vieillissante, et dont on n'attendait pas de réaction. À Lisbonne, le ministre de l'Environnement défend la politique minière du pays et valorise la mise en place de mines respectueuses de l'environnement. João Pedro Matos Fernandes.
Le concept en jeu, c'est celui du green mining, qui consiste à récupérer tout ce qui est retiré des mines en mettant en place un circuit fermé des ressources pour permettre l'implantation de communautés énergétiques favorables aux gens qui en sont proches. Mais c'est vrai, il y a un impact sur le paysage et on peut juste essayer de le corriger.
Au cours des nombreuses manifestations qui jalonnent la lutte des anti-lithium, on ne manque jamais de critiquer ce concept du green mining. Renata Almeida, opposante.
Pour nous, cette histoire d'exploitation minière amie de l'environnement, c'est complètement bidon, c'est un mensonge. Jamais l'exploitation minière ne sera verte. Pour nous, il s'agit de tentatives pour manipuler l'opinion publique avec ce genre d'euphémisme. En fait, les mines sont très destructrices.
Les irréductibles villages du nord et du centre du Portugal résistent. Alors que les décisions devraient être prises d'ici fin 2021, les habitants se disent prêts à tout pour protéger leur mode de vie.
Et au Royaume-Uni, désormais en dehors de l'UE, on s'active pour dénicher ses ressources et une réduction de la dépendance à la Chine passe par l'Angola. On y trouve du néodyme et du praséodyme utilisés pour les éoliennes. Les matériaux bruts seront exportés jusqu'à Hull, dans le nord de l'Angleterre, où l'on construit une première et immense usine de transformation de terres rares, Marie Billon.
Le début des travaux a été retardé à cause du Covid, mais ils ont débuté à la fin de l'été. Pour l'instant, le chantier n'en est qu'à ses fondations et aucune date de livraison n'a été communiquée. Mais à terme, le site accueillera l'une des deux plus grandes usines mondiales de transformation de terres rares en dehors de la Chine. C'est en tout cas ce qu'a avancé l'entreprise à l'origine du projet. Pansana est une compagnie minière dont le siège social est à Londres. Elle importera des terres rares brutes depuis la mine de Longonjo en Angola. Les terres rares seront ensuite transformées au sein de l'usine de Saltend et utilisées dans la fabrication d'aimants pour les industries des éoliennes offshore et les véhicules électriques au Royaume-Uni et en Europe. Le but est que l'usine produise 12 500 tonnes de terres rares chaque année. Le président de Pansana a déclaré que l'usine allait profiter du statut de port franc accordé au port de Lumber ces derniers mois. La compagnie bénéficiera donc de droits de douane minimaux, voire nuls, pour importer sa matière première et exporter ses productions. Depuis le Brexit, Londres présente la création de free ports, de ports francs, donc comme l'un des avantages de la sortie de l'Union européenne, même si d'autres pays du continent peuvent avoir des ports francs. Le gouvernement ne capitalise pas sur cette annonce pour l'instant. La nouvelle n'a vraiment été relayée que dans les milieux professionnels, mais la région de Lumber devrait bénéficier du projet puisqu'il prévoit la création de 500 emplois le temps de la construction et de 100 emploi qualifié de longue durée dans l'usine.
Et pour ne pas manquer de terres rares, pourquoi ne pas les recycler? L'Europe y a bien pensé. Il y a d'ailleurs une directive européenne qui date de 2002, réactualisée en 2012, qui cible tout particulièrement tous les déchets électroniques et électriques. Mais pour l'instant, on ne recycle qu'1% des terres rares. Leur récupération est complexe et pas toujours rentable. Reportage au sein d'une entreprise spécialisée dans le retraitement de ces déchets en région parisienne, signé Juliette Garbrand.
Là, c'est des TPE, des terminaux de paiement. Il y a du plastique, une carte et une pile.
10 tonnes de déchets électriques et électroniques arrivent chaque jour chez l'Oxy. Dans les hangars, des broyeuses, des tapis roulants et des kilomètres de bennes et d'étagères alignées. Marc Ruzafa est le directeur général de l'entreprise de recyclage située à Cergy en Ile-de-France.
Donc on a du PC portable, de l'écran, du clavier, de l'imprimante, du printer, on a du serveur, du switch, de la téléphonie mobile, bien sûr, de la téléphonie fixe. Ensuite, charge à nous de trier et de valoriser au mieux ces matériels. Toujours pareil, réemploi ou valorisation matière. La grosse majorité, c'est des métaux ferreux, la plasturgie, donc tous les types de plastiques existants. Et derrière, il y a les métaux nobles, donc les aluminiums, les cuivres, les inox. Et derrière, les métaux très riches, donc les dorures, l'or, l'argent, le palladium. On s'arrête à ce niveau-là.
Une fois triés et démantelés, ces déchets sont ensuite vendus à des affineurs qui, grâce à des procédés chimiques, vont récupérer les différents métaux et rémunérer l'Oxy en fonction des quantités obtenues. Marc Ruzafa prend dans un bac un carré de métal doré.
Je voulais juste vous montrer aussi une carte d'un serveur. Le serveur, c'est du matériel professionnel, donc c'est du matériel relativement riche. Donc les métaux précieux et les métaux rares sont plus présents sur le matériel professionnel que sur le matériel des particuliers. Il faut que ça soit plus costaud, bien sûr. Donc sur ce type de carte, sur la tonne de carte, on va être à 220 grammes d'or par tonne. Et là, on doit être à 10-12 grammes de palladium par tonne. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Sur ce matériel riche.
Ce n'est pas beaucoup, mais comme le palladium vaut très cher, c'est intéressant. En revanche, pour d'autres métaux stratégiques, comme le praséodyme ou le néodyme, c'est plus compliqué. Devant nous, un bac de disques durs démontés.
Le disque dur standard, si on parlait du néodyme, l'aimant, il se trouve ici. Donc c'est vrai que la part du néodyme sur une pièce comme ça...
Sur une pièce comme ça, eh bien c'est quand même 1 gramme de terre rare, 3 kilos à la tonne, donc beaucoup plus que pour le palladium. Mais voilà, le prix du néodyme est très bas et pour Marc Ruzafa, ça n'est pas rentable. D'autant que l'aimant n'est pas facile à extraire et qu'il existe peu d'affineurs qui traitent ces terres rares. En France, il n'y a d'ailleurs pour l'instant que les laboratoires de recherche qui les récupèrent sur du petit matériel électronique.
Attention, ça tourne.
Robin Ronceret est ingénieur chez Ecologique, structure investie d'une mission d'utilité publique qui coordonne en quelque sorte le recyclage des déchets électriques et électroniques. Il confirme que les faibles quantités obtenues sont un frein au développement de la filière.
Si on collectait 60 millions de téléphones, donc un téléphone par Français, on récupérait 200 kilos de palladium. Qui monte une usine pour 200 kilos ? Même si c'est du palladium, même si c'est très cher.
Ensuite, les matériaux recyclés sont envoyés en Asie, là où se trouvent les usines qui en ont besoin. L'Asie, c'est loin, c'est beaucoup de CO2, alors pourquoi recycler ? L'enjeu est d'abord environnemental. La filière participe à la dépollution des déchets, en évitant que les produits toxiques se retrouvent dans la nature. Mais, comme l'explique Robin Ronceret, l'enjeu est aussi stratégique.
Il faut avoir un intérêt à recycler. Là, pour ces métaux-là, il y a clairement un intérêt. Un intérêt environnemental, évidemment, parce que si on prend le coût en énergie, en CO2 et d'autres paramètres environnementaux, la mine, c'est pas bien. Et d'après, en jeu économique, en jeu politique, en jeu stratégique, en fait, globalement, c'est ce que va dire l'Europe, c'est à la fois politique, économique, environnemental et sociétal. Donc à la fin, c'est comme ça qu'on fait une stratégie.
Une stratégie qui pourrait être améliorée. La directive européenne de 2012 sur le recyclage de ces déchets ne différencie pas les matériaux à recycler, car elle tient compte du coût des opérations. En effet, les fabricants payent une éco-contribution qui varie selon le coût du recyclage. Alors oui, la directive pourrait imposer qu'on récupère le néodyme des aimants de disques durs, par exemple, mais à quel prix pour le consommateur ?
Si le coût à la tonne est trop élevé, au total, eh ben c'est les producteurs qui vont devoir payer une plus grosse contribution, et donc finalement, le citoyen. Si je vous donne un téléphone, les co-contributions, ça va être 2 centimes, parce qu'on en met beaucoup dans un camion, et après, au recyclage, il y a plein de valeurs. Pour un frigo, la dépollution coûte très cher, et c'est très lourd, il n'y en a pas beaucoup dans les camions. Là, ça va être 10 euros d'éco-contribution à l'achat. Pour les téléphones, si on veut atteindre des taux d'or à 97,9%, il va coûter très cher.
Or, le consommateur n'est sans doute pas encore prêt à payer plus cher son téléphone pour que l'Europe récupère ses métaux rares. Dans un coin du hangar de l'Oxy, des dizaines de trottinettes attendent d'être désossées. Un nouveau produit, de nouveaux aimants et toujours du néodyme à recycler.
Et puisqu'on parle d'autonomie technologique européenne, on va aussi parler d'autonomie stratégique. L'idée s'impose de plus en plus au vu du dernier scandale AUKUS. L'alliance entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, véritable coup dans le dos des Américains à la France, qui lui coûte aussi un contrat de 56 milliards d'euros pour l'achat de 12 sous-marins. La diplomatie, cela passe aussi par des crises violentes, c'en est une, avec à la barre le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui n'a pas caché sa colère.
C'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Brutal, imprévisible. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump.
Il est rare d'entendre Jean-Yves Le Drian en colère, sortir du langage strictement diplomatique. Gwendal Rouillard, députée du Morbihan, est un fidèle de Jean-Yves Le Drian.
Jean-Yves Le Drian a une constante, c'est de conjuguer discrétion et efficacité. La parole est d'or quand elle est utilisée à bon escient. Et donc, pour l'affaire des sous-marins australiens, le ton a évidemment changé et nous devions passer à la contre-offensive, qui est en cours.
À 74 ans, derrière sa bonhomie de petit père tranquille, c'est une tête dure, un pencarne, comme on dit en Bretagne, sa terre natale, son fief même, tant il est un homme de réseau, incontournable, taillé dans le granit, dit un de ses proches. Véritable menhir électoral, il adhère au Parti socialiste en 1974 et est élu 4 ans plus tard, député à seulement 30 ans.
J'étais héritier d'une tradition familiale de militantisme, de lutte au sein du mouvement ouvrier et plus généralement du mouvement socialiste.
En 1981 et pendant 17 ans, il est maire de la ville côtière de Lorient, longtemps QG de la force sous-marine française, importante base aéronavale, d'où il va arpenter le territoire pour finalement, en 2004, faire basculer la Bretagne à gauche.
Se dit, se murmure, en Bretagne, la droite n'est plus éternel.
Président de la région jusqu'en 2012, quand son ami François Hollande, élu président, le nomme ministre de la Défense, un poste que lui avait déjà proposé par deux fois le président Sarkozy. Car Jean-Yves Le Drian est un passionné de géopolitique et un homme aussi bien apprécié à gauche qu'à droite. Pragmatique, sérieux, il fait consensus et va gérer son fracas des dossiers aussi sensibles que ceux du Mali et de la Centrafrique. Jean-Pierre Molny, directeur adjoint de l'IRIS, salue une personnalité politique qui n'en fait pas trop, justement, de politique.
C'est quelqu'un qui s'exprime en fonction de sa fonction, qui a de la suite dans les idées. Il a une certaine ténacité.
Décrit comme un travailleur acharné, un analyste subtil et très méticuleux, il arrive au Quai d'Orsay en 2017 avec son aura de ministre de la Défense qui a tout réussi, ou presque. La guerre contre le terrorisme, la modernisation de l'armée et des ventes d'équipements militaires records, dont 84 rafales et le fameux contrat des sous-marins australiens. Chantre du multilatéralisme, Jean-Yves Le Drian va aussi mettre en avant l'une de ses convictions profondes, une plus grande intégration européenne. Voilà ce qu'il disait en 2013.
Les Américains sont dans ce qu'on appelle la réorientation vers le Pacifique, devant la montée en puissance militaire d'un certain nombre de pays, y compris la Russie, devant la crise du Sahel, l'Europe de la défense. Ce ne peut plus être une invocation ou une évocation, mais ça devient une nécessité. Donc il est temps de se mettre à y penser très pratiquement.
Cette semaine, il n'a donc pas manqué de rappeler que l'alliance entre Américains et Australiens concernait tous les Européens. Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions de défense européenne.
Si on s'était limité à défendre notre précaré industriel, il est clair que nous n'aurions pas reçu le soutien de nos partenaires européens. Enfin, il faut se souvenir que ce contrat, nous l'avons gagné face à des industriels allemands. Par contre, d'un point de vue stratégique, et c'est le discours qu'a tenu Jean-Yves Le Drian, il est clair que là, c'est dans l'intérêt des Européens de faire front commun face à l'allié américain.
Habituellement discret, Jean-Yves Le Drian se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs avec, d'ici la prochaine présidentielle française au printemps 2022, un agenda bien chargé.
C'était l'Européen de la semaine, un portrait signé Carlotta Morteo du Service international. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur le site de RFI. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast. À demain.